Chapitre 102. L'orage est juste au-dessus d'eux. Les rafales de vent sont violentes et envoient la pluie dans leurs yeux. Quand ils arrivent à l'endroit d'où a été tirée la fusée de détresse, Rex découvre son fils. Il est assis, blotti contre un tronc d'arbre, en compagnie de DJ. Leurs habits de chasse verts sont trempés et l'eau de pluie ruisselle sur leur visage. « Sammy !» crie Rex, et il se précipite sur lui. « Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as disparu !»« Écoutez-moi !» dit DJ en se levant. L'eau coule de sa barbe blonde sur sa veste, ses yeux bleu clair sont injectés de sang. « Il y a eu un accident. Kent est tombé dans le ravin. Je crois qu'il est mort. »«
Putain, c'est pas vrai !»
hurle James à travers la pluie torrentielle. « Il s'est tué !» répète DJ. « Il n'y a rien à faire. » La pluie diluvienne change de direction au gré des bourrasques capricieuses. Leurs vêtements sont malmenés et volettes.
« Qu'est-ce qui s'est passé ?»
allait Rex. « Il y a pas mal de broussailles au bord, » explique DJ les yeux brillants. « Il n'a pas dû voir le précipice. Il ne savait peut-être pas où il était sur la carte. »«
Sammy ?» demande Rex. « Tu as disparu comme ça ?»
Son fils le regarde avant de détourner le visage.
« Il est tombé, » dit-il d'un filet de voix.
« Tu l'as vu ?»«
Il est là, en bas. »
Rex et James s'approchent prudemment du bord pour regarder. Les gouttes leur coulent dans la nuque, dans le dos et jusqu'à l'intérieur du pantalon.
« Faites attention !»
lance DJ derrière eux. À travers la pluie battante, il est difficile de distinguer où s'arrête le sol. En s'avançant lentement, ils voient s'ouvrir sous eux le profond ravin. Le vent s'engouffre dans les habits de James. Il chancelle et fait quelques pas avant de retrouver l'équilibre. Rex s'accroche au buisson touffu et veille à ce que ses bottes soient bien plantées dans le sol avant de se pencher au-dessus du bord. Au début, il ne voit rien. Il plisse les yeux et essuie la pluie de son visage. Son regard survole la végétation, les pierres, les arbres déracinés, les buissons. Puis il découvre Kent. Son corps gît environ 45 mètres plus bas, contre la paroi du précipice.
« Il bouge !»
crie James à côté de lui.
« Je vais descendre, ça doit être possible !»
Rex sort ses jumelles. Il est obligé de lâcher le buisson et recule sur le rocher tout en les portant à ses yeux. La paroi abrupte bouge toujours la vue. Il s'approche, se penche en avant et distingue la forme verte. Soudain, le sol bouge sous ses pieds. Il s'agrippe à quelques maigres branches et se laisse tomber en arrière, tandis qu'une motte de mousse et de terre agglomérée dégringole dans l'abîme.
« Mon Dieu !»
murmure-t-il. L'angoisse de la mort fuse dans son corps et son cœur bat la chamade lorsqu'il lève les jumelles de nouveau, s'avance un peu et règle la netteté. L'eau ruisselle sur les lentilles, mais il voit très distinctement le corps à présent. Le sang que Kent a laissé sur la roche en tombant est lavé par la pluie. Il est coincé dans une crevasse. Il a dû se briser la nuque, car son visage est tourné vers l'arrière et sa jambe pointe dans une position absurde. Il est bel et bien mort, aucun doute là-dessus.
« Il faut faire venir un hélicoptère !»
s'exclame James. La panique se lit dans ses yeux.
« Il est mort, » dit Rex en baissant les jumelles. « Je vais descendre pour voir. »«
C'est trop dangereux !»
crie DJ derrière eux.
« Putain !»
gémit James, et il s'effondre au bord du précipice. Lawrence arrive en haletant. Ses lunettes sont mouillées et il s'est manifestement égratigné. Sa cuisse saigne à travers l'épais tissu de son pantalon. Sa grosse barbe grise est pleine d'aiguilles et de brindilles.
« Qu'est-ce qui se passe ? »
souffle-t-il en s'essuyant les yeux.
« Kent est tombé dans le ravin, » répond James. « C'est grave ?»
« Il est mort, » répondit Jay.
« On n'en sait rien, »
proteste James, indigné.
Il n'a pas pu survivre à une telle chute, explique DJ à Lawrence en montrant le canyon.
Il est mort, confirme Rex.
Vos gueules,
hurle James d'une voix hystérique. Écoutez, dit DJ en haussant la voix. On va retourner à l'hôtel pour appeler les secours. Lawrence s'éloigne, secoue la tête et s'assied sur une pierre, le fusil posé sur les genoux et le regard dans le vide. James ne bouge pas d'un poil. Ses lèvres sont blanches de rage sous l'effet du choc.
« Je le savais, » murmure-t-il pour lui-même.
« On ne peut rien pour lui pour l'instant, » fait remarquer DJ. « Il nous faut un téléphone. » Rex va s'accroupir devant son fils et croise enfin son regard. « On va retourner à l'hôtel. »«
Oui, merci, » répond Sammy.
Rex le soutient quand il se lève. DJ leur indique une direction qui les éloigne du ravin et ils se mettent en route. DJ tente de raisonner les deux autres, mais ils ne lui répondent pas.
Venez maintenant, s'impatiente DJ. Ce n'est pas le moment d'avoir d'autres accidents. Je comprends que vous trouviez pénible de le laisser ici, mais il faut qu'on fasse venir les secours au plus vite.
Les deux hommes le regardent, puis ils bougent enfin. Le groupe avance à flanc de montagne, en se dirigeant obliquement vers la vallée, vers l'hôtel et le lac de Tournetresque.
« Putain, j'y crois pas, c'est complètement fou !» se lamente James.
La pluie tombe toujours à verse, et leurs vêtements trempés sont pesants.
« J'aimerais qu'on rentre à la maison tout de suite, » dit Sammy.
« Je suis vraiment désolé que tu aies eu à vivre ça, » regrette Rex.
Puis il se tourne vers les autres. Il observe les trois hommes sous la pluie. Des flaques d'eau se forment dans les moindres creux et cavités, et le sol semble en ébullition. Les gouttes s'écrasent sur la roche qui se couvre d'un scintillement blanc.
Fais attention de ne pas glisser, dit Rex à son fils.
Je l'ai vu tomber, chuchote Sammy. J'arrivais sur le côté. C'était avant la pluie. C'est allé tellement vite que j'arrive pas à comprendre.
On n'aurait pas dû venir, déclare Rex en sentant une angoisse terrible lui serrer la gorge. J'imagine toujours que je suis obligé de faire un tas de trucs, mais en fait, je ne suis pas un chasseur. J'aurais pu le dire tout de suite. T'es trop gentil pour ça.
On aurait pu attendre tranquillement à l'hôtel, poursuit Rex en écartant une branche. On aurait cuisiné, on aurait discuté, c'est ça que tu voulais faire.
« Maman m'a raconté que j'étais pas un bébé programmé, au contraire. Écoute, j'étais terriblement immature quand on s'est rencontrés, elle et moi. Je pensais pas une seconde au fait d'avoir des enfants. Je venais juste de commencer à vivre ma vie.
Tu voulais que maman avorte ?»«
Sammy, tout a changé quand je t'ai vu, quand j'ai réellement compris que j'avais un fils. Maman m'a toujours dit que tu tiens à moi, mais que t'as du mal à le montrer. » Je me suis toujours dit que je serais là pour toi quand tu en aurais besoin, mais j'ai pas été à la hauteur, confesse Rex en avalant sa salive. J'ai pas été là pour toi.
Il se tait en sentant que sa voix va le trahir. Il essaie de retrouver son souffle et de se calmer.
Je veux que ta mère accepte ce boulot à Freetown et que tu viennes vivre avec moi, vraiment.
Sans que ce soit un problème.
Finit-il par dire.
Je sais me débrouiller tout seul, proteste Sammy.
Rex s'arrête et essaie de capter le regard de son fils.
Sammy, je trouve ça génial que tu habites chez moi.
J'espère que t'en as conscience.
Tu as bien dû t'en rendre compte.
J'ai passé les meilleurs moments de ma vie quand on a cuisiné ensemble, quand on a joué de la guitare.
Papa, t'es pas obligé. « Mais je t'aime !»
poursuit Rex d'une voix brouillée.
« Tu es mon fils. Je suis fier de toi. Tu es la seule chose qui compte pour moi. La seule. »